Pierre Bellemare.
Un étui à lunettes qui, miraculeusement, sauva la vie d'un président des États-Unis. Une vieille robe de mariée cousue par une folle, aujourd'hui considérée comme une grande œuvre d'art. Un revolver inoffensif, mais devenu mythique depuis que Verlaine l'utilisa pour tenter d'assassiner Rimbaud. Pour vous, nous avons reconstitué le récit de 33 objets, en apparence anodins, mais qui ont bouleversé le cours de notre histoire.
Curieux objets, étrange histoire, le nouveau livre-événement de Pierre Bellemare aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des plus grands criminels de l'histoire que Franck Ferrand a choisi d'évoquer cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Un des grands criminels de l'histoire, en effet, et en même temps, l'un des compagnons préférés de Jeanne d'Arc. Vous avouerez que le paradoxe du personnage est assez extraordinaire. Il tient dans cet énoncé. Vous avez d'un côté un des pires criminels de l'histoire de France, je pense qu'on peut le dire peut-être, si en tout cas on admet qu'il a bien commis les actes qu'on lui reproche, il est le pire criminel de l'histoire de France, et en même temps, un personnage qui a accompagné Jeanne d'Arc, qui l'a constamment soutenu, qui l'a défendu jusqu'au bout. Nous allons parler de Gilles de Rais en compagnie d'une grande spécialiste du Moyen-Âge, la médiéviste Claude Govard, qui justement est en train de travailler en ce moment sur la question de la peine de mort au Moyen-Âge. Et puis, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à une question qui n'a rien à voir, à une question de Suzanne sur l'origine du terme « ch'ti ». Mais oui, les ch'tis, les gens du Nord.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On a dit que Charles Perrault avait pensé à Gilles de Rais lorsqu'il écrivait « Barbe bleue ». Et le seigneur de Tiffauges a inspiré par ailleurs pas mal de personnages d'ogres et de ce que nous appelons, nous aujourd'hui, des serial killers. Entre nous soit dit, on est à chaque fois loin du compte. Et les atrocités commises par le véritable personnage semblent avoir de beaucoup dépassé celles évoquées par la littérature. Alors comme souvent, on peut dire que la réalité dépasse la fiction. Il faut dire que nous sommes dans l'époque de tous les excès et de tous les dérèglements. Ce début de XVe siècle est une période de transition entre ce qu'on a coutume d'appeler le bas Moyen-Âge et ce qu'on appelle également la Renaissance. Aussi, du moins dans les élites, a-t-on l'impression que les contemporains cherchent de nouveaux repères. Nous évoquerons cela, bien entendu, tout à l'heure avec Claude Govard et j'ai hâte d'entendre son avis sur la question. Vous savez, si l'on en croit les vieux manuels, on serait passé comme ça sans transition d'âge un peu sombre à une Renaissance toute lumineuse, toute raffinée. En vérité, les choses se sont faites très différemment. Il y a beaucoup de lumière dans le Moyen-Âge et il y a sans doute des ombres dans la Renaissance. Avant même la redécouverte des sources antiques, avant la rupture décisive des guerres d'Italie, le début du XVe siècle est marqué par une efflorescence des lettres, des arts, par un grand raffinement de la vie quotidienne qui se constate aussi bien à la cour de Bourgogne, par exemple, que dans les propriétés d'un grand mécène comme le duc de Berry. On a un peu oublié cette période à l'heure actuelle, mais à mon avis, le jour où on va redécouvrir toutes ces merveilles, on se rendra compte que ce moment de transition, de confrontation entre foi et raison, de naissance de l'individualisme d'une certaine manière, on se rendra compte que cette époque a engendré les plus grands raffinements et aussi, c'est vrai, les pires perversions. C'est extrêmement passionnant tout ça. Alors justement, cette époque, personne ne l'a, semble-t-il, aussi bien incarné que Gilles de Rais, y compris dans ses excès. Ce qu'il faut savoir, si l'on veut avoir une chance de comprendre le personnage, c'est qu'en dépit de toutes les transformations de la société, on est encore, pour quelques décennies, dans un système féodal. Et ça, c'est fondamental. Gilles est un chevalier, il a reçu l'initiation, l'adoubement, etc. C'est un héritier, c'est un suzerain. Son grand-père, Jean de Cran, lui laisse en 1425 de nombreux châteaux, des territoires immense, en Vendée, dans tout le pays nantais, une fortune gigantesque. Les terres de Gilles s'étendent du pays de Rais jusqu'à l'océan. C'est un puissant seigneur auquel nous avons affaire, un personnage intouchable, ce qui va expliquer bien des choses, et que sa réputation place au-dessus de l'ordre social. En même temps, cette position le met en concurrence avec un certain nombre de ses semblables, notamment ses deux grands et puissants voisins, le duc de Bretagne et le roi de France. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Anglais sont partout en France. On comprend que le dauphin, fils du roi fou Charles VI, le futur Charles VII, qui du fait de l'occupation anglaise n'est jamais que roi de Bourges et de Poitiers. On comprend que ce dauphin a mis un point d'honneur à s'allier au jeune Gilles de Rais, dont il a fait, tout naturellement, l'un de ses chefs de guerre. Il lui a fait miroiter la dignité de maréchal de France. Gilles, allié au puissant La Trimouille, arme des troupes. Il tient son rang à la cour, il est à Chinon. Et il est là, d'ailleurs, vous savez, le jour où se présente, venue du Barrois, cette fille qui prétend avoir entendu des voix, ou plus exactement, écouté les conseils de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite, de l'archange Saint Michel, et qui va désigner le gentil dauphin. On est toujours là un peu à la limite entre la légende et l'histoire, mais en tout cas, Gilles était là lorsque Jeanne s'est présentée à Chinon. Si je devais esquisser un portrait psychologique de Gilles de Rais, je dirais qu'il est hanté par la notion de pureté, et c'est en cela qu'il est l'enfant de son temps. À ses yeux, l'âme, qui est pure par essence, se trouve en quelque sorte engluée dans un corps impur et même source de toutes les souillures. C'est en quelque sorte une résurgence tardive de l'augustinisme qui a tellement régné sur le Moyen-Âge. Comment s'étonner qu'avec une telle obsession, il n'éprouve très vite une violente admiration pour Jeanne. C'est en fait un amour pur, très éthéré, que le jeune homme, qui par ailleurs n'est pas porté vers les femmes, éprouve pour celle qui devient à ses côtés, et en partie grâce à lui, la pucelle d'Orléans. Vous savez qu'avec Dunois, Lahire, Xaintrailles, enfin, etc., Ray va se battre aux côtés de Jeanne, et le jour du sacre à Reims, c'est à lui que l'on a confié la sainte ampoule de Clovis. Il est fait maréchal de France dans la foulée. Alors il va continuer à suivre Jeanne au siège de Paris et ailleurs, et quand après la fin de la reconquête, il apprend qu'elle est à Rouen, prisonnière des Anglais, il organise une expédition pour la sauver. Ce serait passionnant. Alors là, il y aurait vraiment une émission entière à faire sur cette expédition de Rouen, sur cette tour, ce donjon de Bouvreuil, etc. C'est passionnant. Il se trouve que, vous le savez, cette expédition est un échec. Jeanne est brûlée, Gilles en est horrifié, on a brûlé une sainte, on a brûlé ce qui est sans doute le grand amour de sa vie, encore une fois un amour très pur, entendez-le bien. Voilà un homme brisé, dégoûté de la vie, comme diraient nos adolescents d'aujourd'hui, un homme anéanti en tout cas, le mot n'est pas trop fort, et qui va rentrer sur ses terres dans un état que nous qualifierions nous de dépressif. Alors, peu à peu, Gilles de Rais va reprendre goût à l'existence, mais ce sera toujours à travers une espèce de quête inépuisable de pureté, d'innocence, de beauté. Gilles a les moyens de ses ambitions très pures. Vous savez, il possède des écuries qui vont servir de modèle à celle du roi d'Angleterre. Sa bibliothèque est tellement impressionnante, bibliothèque de manuscrits à l'époque, évidemment. Elle est tellement impressionnante qu'on la connaît jusqu'aux confins du monde civilisé. Elle est connue du grand khan de Moscou, dit-on. Et puis surtout, Gilles entretient une collégiale qui fait rêver le cardinal Gaffarillo. 80 des servants, vous imaginez ça, plusieurs jeux d'orgue, dont un orgue ambulant qui permet de suivre les déplacements du maître. Gilles éprouve pour les voix d'enfant, pour ces voix archangélique venu d'on ne sait où, une véritable passion. La figure de l'ange est omniprésente à Chantossé chez lui. Or, pour Gilles de Rais, cet objet d'extase va devenir un objet de jouissance quand il est confronté à la souillure, à la violence. N'ayons pas peur des mots. Dans notre terminologie actuelle, nous dirions que le seigneur de Tiffauges présente tous les symptômes de la pédophilie. Il va bientôt en adopter, hélas, les pratiques.
Sur Europe 1, un extrait du Requiem de Mozart, Dies Irae, par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Karajan. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Gilles de Rais.
Alors nous avons vu que depuis la mort de son idole, si j'ose ainsi m'exprimer, depuis la mort de Jeanne, et depuis son retour sur ses terres vendéennes, le maréchal de Rais, il n'a même pas 30 ans à cette époque, mène un train princier. Les dépenses somptuaires s'accumulent, sa grande libéralité confine en vérité à la prodigalité, et on a beau écraser les populations d'impôts, pour tout vous dire, ça ne suffit pas à alimenter l'extraordinaire soif de dépenses de ce personnage. Le fait que la famille s'inquiète. Gilles est marié, il est marié à Catherine de Thouars, qui est une riche héritière. Il voit très peu sa femme, pour tout vous dire. Elle vit à l'écart, elle, dans son château de Pouzauges. Il lui a fait une fille, quand même, Marie. Et évidemment, le train de vie de Gilles est tel qu'on est obligé de le déclarer prodigue. On va nommer un procureur, c'est-à-dire qu'il n'est même plus maître de ses propres dépenses. Or, comme toujours dans ce genre de situation, il faut compter avec ceux qui en profitent, qui se servent au passage. En l'occurrence, deux noms reviennent toujours, dès lors qu'il est question de la dilapidation de l'immense fortune de Cran. C'est justement le procureur de Gilles de Rais, son cousin Roger de Bricqueville, qui sera plus tard le complice de certains de ses crimes, et puis un autre cousin, lui aussi lié au crime d'ailleurs, qui s'appelle Gilbert de Sillé. Il a des procureurs, mais ça ne l'empêche pas de continuer à faire des dépenses immenses, notamment pour les extraordinaires mises en scène de ce qu'on appelle le mystère d'Orléans. Vous savez qu'à l'époque on jouait comme ça des espèces de pièces. On dit qu'au mystère d'Orléans ont été réquisitionnés 600 exécutants, vous imaginez. Si seulement on pouvait, comme certains le prétendent à l'époque, changer le plomb en or. Cette idée flatte le penchant de Gilles de Rais pour la pureté, pour l'idée de purification qui, vous le comprenez, anime littéralement sa vie et son esprit. Le maréchal va se jeter à corps perdu dans l'alchimie. Alors il a là encore un certain nombre de personnes qui sont à pointer. Le prêtre Blanchet, un dénommé Larivière, qui par 20 reprises, nous dira-t-on au moment du procès, fera des incantations au diable. Il y a aussi, venu de Florence, un certain Prélati, dont l'influence, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sera pas très positive. Maintenant qu'ils ont pris un ascendant définitif sur l'esprit de leur jeune maître, Prélati et ses comparses l'attirent chaque jour un peu plus vers le fond du gouffre. Il est question donc d'incantations diaboliques, de pratiques sataniques et fatalement, de sacrifices humains. C'est alors que les pulsions pédophiles de Gilles de Rais vont rencontrer son excitation devant l'innocence et la pureté, sa volonté de percer le mystère de la pierre philosophale, sa fascination pour le mal et pour le bien. Est-ce qu'il ne voit pas finalement dans le mal une sorte d'inversion idéale du bien ? Tout ça est très complexe, bien entendu, mais ça nous amène au cœur même de cette histoire. Pour parler clair, c'est le moment où des excès de toutes sortes vont basculer dans le crime, dans le pire des crimes, des semaines, des mois, des années durant, Gilles de Rais et ses complices vont tourmenter, vont violer, vont souiller, vont tuer de jeunes garçons qu'on suspend à des crochets dans les caves de Chantausée puis de Tiffauges. Cette criminalité sans nom et quasiment sans autre exemple dans l'histoire, en tout cas dans notre histoire, cette criminalité est organisée puisqu'on voit les complices de Gilles se faire parfois les recruteurs. Alors c'est facile, vous savez, quand on se promène dans les campagnes où l'on vit très chichement, de faire miroiter de beaux habits, de la nourriture, etc., à des parents qui, pour certains, iront jusqu'à payer pour que leurs enfants deviennent pages du maréchal. Ceux qui s'étonnent d'être longtemps sans nouvelles de leurs enfants sont rassurés. On leur dit que leurs enfants sont partis au loin, qu'ils sont devenus pages dans de grandes cours, etc. C'est tellement facile. Pendant ce temps, la situation financière et patrimoniale de Gilles de Rais continue de se dégrader. D'autres suzerains en profitent sans scrupule, à commencer par le duc Jean de Bretagne, qui rachète à tour de bras des pays entiers, à commencer par les marches de son duché. La plupart des cessions se font à réméré, c'est-à-dire avec une option de rachat, et ça explique peut-être en partie la volonté du duc de Bretagne de se débarrasser de Gilles de Rais après l'avoir dépouillé de ses terres. De même, l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, à force de lui racheter des biens, se trouve le débiteur de Gilles pour des sommes énormes, et lui aussi va avoir intérêt à le perdre. J'insiste là-dessus parce que c'est l'une des théories, elle est minoritaire mais elle existe, elle est de plus en plus fréquente d'ailleurs, une des théories qui voit dans le procès de Gilles de Rais une espèce de machination destinée à libérer un certain nombre de débiteurs des obligations qu'ils ont envers leurs créanciers. Cette coalition de puissances sacrées et profanes contre la tête du maréchal de France a fait dire donc à certains érudits qu'un complot avait été armé contre lui. C'est peut-être vrai en partie, nous verrons ça tout à l'heure. De toute façon, ça ne l'exonère en rien des faits monstrueux qui lui sont reprochés. Le procès d'église reproche à Gilles de Rais 200 crimes d'enfants. La cour séculière n'en retiendra, si j'ose dire, que 140 qui, semble-t-il, sont nettement établis. Les historiens modernes ont vu des crimes dans des quantités beaucoup plus nombreuses. Certains ont parlé de 800, voire 1000 garçons violés, torturés, assassinés, etc. C'est très difficile à dire, tout ça, bien entendu. Il est important de ne jamais perdre de vue que, même au moment de ses pires crimes, l'ogre, si je puis dire, ne s'est jamais détourné d'une pratique très assidue, très fervente de la religion. Ça, c'est assez extraordinaire. Il faut savoir que Gilles était chanoine laïque de Saint-Hilaire de Poitiers. Il a même constamment confessé ses crimes et l'on peut penser que c'est la confession qui lui a permis, en quelque sorte, sur un plan psychologique, de tenir aussi longtemps. Car lorsqu'on se livre aux pires débauches, on se demande toujours comment tenir? Eh bien, peut-être que la confession est une forme d'absolution provisoire, est une sorte de carburant du crime.
Bel après-midi ce jeudi de l'Ascension sur Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire et je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos messages à Franck Ferrand via la page Facebook de l'émission, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, et par mail europe1.fr. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer de parler de Gilles de Rais et de son procès.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Accusé d'avoir massacré et abusé de plus de 140 enfants au XVe siècle, vous nous parlez, Franck Ferrand, d'un des plus grands criminels de l'histoire, Gilles de Rais.
Si l'on en croit les paroles mêmes de Gilles à son procès, les crimes qu'il commet, ces crimes sexuels, sont abjects, il en a conscience. Mais son âme se maintient dans le giron de Dieu. C'est ça le secret peut-être de cette affaire. À notre époque, c'est un petit peu difficile à admettre et nous devons faire une sorte de gymnastique intellectuelle pour comprendre ce raisonnement. Mais encore une fois, au XVe siècle, le divorce de l'âme et du corps atteint des sommets et peut-être faudrait-il parler d'une forme très atténuée, mais d'une forme néanmoins de schizophrénie collective. Voilà encore une question à poser à notre invité d'aujourd'hui. Le 13 septembre 1440, finalement, Gilles est arrêté. Le 11 octobre suivant, il comparaît devant une double cour civile et ecclésiastique sous la souveraineté du duc de Bretagne, ce qui au passage est irrégulier concernant un sujet du roi de France. Et quel sujet? Un maréchal de France? Peu importe, ce qui compte pour nous, c'est l'attitude de Gilles de Rais. On a trouvé des charniers contenant des corps d'enfants à Chantossée comme à Tiffauges. On a surtout, sous la torture, obtenu des aveux effroyables de plusieurs de ses complices. Gilles va-t-il enfin s'effondrer? Que nenni! En vérité, il a revêtu ses atours blancs, parés d'hermine, ses ordres de chevalerie en or. Messire, clame-t-il, je vous prie d'expédier vivement mon affaire et de me renvoyer en hâte, car j'ai grand presse de me consacrer au service de Dieu qui m'a remis de mes péchés. Voilà comment commence le procès. Pendant 2 jours, on peut dire que le seigneur de Rais fait face aux accusations avec une morgue qui fait que l'on finirait presque par douter des crimes qui lui sont reprochés. Seulement, l'ogre souffre d'un point faible. le maréchal d'un défaut dans la cuirasse, si je puis dire. Et c'est cette volonté obsessionnelle d'assurer le salut de son âme, bien entendu. Les juges ne tardent pas à trouver comment le confondre. On le somme de jurer sur les Écritures, de dire la vérité. Et ça juré, il n'en est pas question pour Gilles de Rais, qui refuse et qui bientôt se confond. Alors, les accusateurs religieux vont frapper leur grand coup. Gilles de Rais est excommunié. Ça, c'est pour lui une idée absolument insupportable. Nous avons tendance à penser que Gilles voulait laver sa conscience. En réalité, ce qu'il veut surtout, c'est faire lever cette sanction d'excommunication. Et donc, à ses yeux, c'est sauver son âme. C'est pour cela qu'il va se lancer d'abord à huis clos, puis en séance publique, à la plus terrible des confessions qu'on ait jamais entendues. Gilles de Rais a abandonné ses somptueux atours et le voilà qui d'un seul coup revêt la chemise grossière, rougeâtre des gens du peuple. Il n'est personne au monde qui sache ou puisse comprendre tout ce que j'ai fait dans ma vie, dit-il. Il n'est personne en cette planète qui puisse ainsi faire. Et quand on lui demande le nombre de ses victimes, il dit 620 environ chaque année. 620, c'est-à-dire 120 à l'époque. À mesure qu'il se délivre du poids énorme de tous les remords accumulés, Gilles sanglote un peu plus en même temps qu'il sourit à travers ses larmes. C'est assez étrange, on pourrait le croire fou. Il est plutôt choqué, soulagé tout à la fois de se charger ainsi devant la justice des hommes avec l'espoir de s'alléger devant celle de Dieu. Dans la chapelle désaffectée de Nantes où se déroulent les débats, malgré la présence de nombreux parents des petites victimes, le silence est impressionnant. Le 25 octobre, Gilles est donc condamné à la corde et au bûcher. Il sera pendu et brûlé le 26 dans la prairie de Biesse. En fait, on l'a étranglé avant et il sera donc retiré du feu. Et jusqu'au bout, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que jusqu'au bout, on va voir la population qui avait assisté au procès et qui assiste à la procession d'exécution. On va voir la population prier, chanter avec lui, pleurer à son exécution. Que se passe-t-il? Comment le comprendre, cet étrange 15e siècle? Bonjour Claude Gauvard.
Bonjour.
J'ai, si l'on peut dire, expédié le procès de Gilles de Rais. On va y revenir avec vous dans le détail. Et puis surtout, on va essayer de comprendre la psychologie de ces différents acteurs.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Un extrait de Carmina Burana sur Europe 1, composé par Karl Orff. C'était le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago, dirigé par James Levin. Gilles de Rais est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'historienne médiéviste Claude Gauvard, professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à la Sorbonne.
Avant de venir à tous les faits reprochés à Gilles de Rais, Claude Gauvard, peut-être faut-il évoquer rapidement sa carrière d'homme de guerre. C'est un homme en armes, en quelque sorte, que cet homme-là. C'est un des grands soldats de son temps.
C'est un très grand soldat, c'est une énigme quand même. Alors on reviendra sur l'énigme, parce que je crois que c'est ce qui va parcourir toute mon intervention.
Bien sûr.
Pour l'historien, c'est une énigme. Et je vous dirai pourquoi. C'est un homme d'armes, dans une famille chevaleresque, comme vous l'avez très bien dit, nobiliaire, et il est, par sa naissance, vassal, en quelque sorte, du duc de Bretagne, Jean V. Et il est embauché comme capitaine par le futur Charles VII, qui a repéré sa valeur militaire.
Est-ce que c'est la Trémouille qui l'a repéré, comme on le dit ?
Oui, voilà, tout à fait, c'est la Trémouille qui l'a repéré. Il y a même une sorte de contrat d'alliance qui est faite entre ces hommes, et c'est comme ça qu'on recrute les capitaines, un petit peu comme du Guesclin.
C'est exactement le même
profil, et là aussi d'ailleurs la même origine, ou presque. C'est donc un homme qui a fait des exercices militaires sa valeur, et en particulier s'est illustré au siège d'Orléans. Le siège d'Orléans, on dit que c'est Jeanne d'Arc, et c'est vrai.
Mais bien sûr, oui, mais...
C'est vrai qu'elle a... Mais quel est le rôle de Jeanne?
Elle a galvanisé les troupes.
Voilà, exactement. C'est un rôle psychologique. Énorme. C'est énorme.
Le rôle tactique, il revient au chef
mais
de guerre,
bien entendu.
Bien sûr.
Les hommes de guerre, c'est effectivement Gilles de Rais, c'est Dunois, c'est Xaintrailles. Et la Hire. Voilà. Donc, on a autour d'elle des capitaines qui sont des gens parfaitement exercés et qui avaient besoin de cette espèce de stimulation qu'elle a provoquée. Alors, l'admiration qu'il a pour elle, vous en avez parlé avec juste raison, c'est aussi là une énigme. C'est une admiration très pure, je pense, effectivement. Mais en même temps, il faut bien réfléchir aux prédictions. Elle avait prédit « je prendrai Orléans, je ferai sacrer le roi de France ». Et effectivement, il est au sacre, c'est lui qui porte
il
la sainte ampoule.
Il voit tout ça, bien
absolument.
Sûr.
Il est là, il est maréchal.
Il est même fait maréchal.
Absolument.
Voilà.
Et maréchal de France à un âge
très jeune.
Très jeune.
Incroyable.
Hein, il est né vers 1405 à peu près. Hein. Bon. Donc, et le sacre est de 1429. Vous voyez, on ne sait pas exactement la date de naissance, mais c'est probablement 1405, peut-être 1406.
Ce n'est pas l'image que notre époque moderne se fait d'un maréchal de France, évidemment.
Non, non, mais vous savez, ces gens-là meurent jeunes.
Mais oui, c'est vrai.
En principe. Donc, en principe. Parce qu'il y a aussi des gens qui vivent fort longtemps, mais une fois qu'ils ont passé 40 ans. Donc, on a un homme qui est lié à Charles VII et qui est lié à Jeanne. Et de Jeanne, il voudrait faire accomplir la troisième prédiction, qui est de reprendre Paris. Or, c'est un échec. Alors, il la soigne. Il ne l'abandonne pas complètement, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, il y a un doute. Quelque part...
Quelque chose s'est insinué.
Ah, oui, je pense. Moi, je crois beaucoup à ce revirement, si vous voulez, du siège de Paris, qui a eu un échec, où elle a été blessée. Non seulement elle échoue, mais elle est blessée.
Bien sûr, oui.
Et ça veut dire que la parole de Dieu l'a abandonnée, que l'appui de Dieu l'a abandonnée. Et on peut expliquer, d'ailleurs de cette façon, le relâchement aussi de Charles VII.
Et de la cour, oui. Mais
de la cour qui du coup en profite pour ceux qui étaient les rivaux, bien entendu.
Régno de Chartres, la Trémouille, tout ce monde-là reprend son pouvoir.
Tout à fait.
Avec la bénédiction d'Yolande d'Aragon. Enfin,
voilà,
bon.
Tout à fait. Donc, c'est un panier de crabes, la cour. Donc, il y a là le moyen d'affaiblir. Et on voit bien qu'à partir de ce moment-là, lui, j'allais dire, il se retire sur ses terres.
Et quand même, il va tenter de la sauver,
oui,
à Rouen. Il fait partie de
la sauver. Alors là, on n'a pas beaucoup travaillé sur cette... vous l'avez très bien dit, d'ailleurs. On n'a pas beaucoup travaillé, les historiens n'ont pas beaucoup travaillé sur cet épisode, qui est plus ou moins attesté. Enfin, donc, il faut vraiment retravailler là-dessus. Mais il se retire, quand même. Il se retire du jeu, et il se retire jeune. Les conquêtes ne sont pas terminées. La reconquête est bien loin d'être terminée. Autrement dit, il ne participe pas à la reconquête.
Et le duc de Bretagne est toujours aussi puissant, sinon davantage, ce qui est très important.
Tout à fait. Et lui, comme vous l'avez aussi très bien dit, il tient toute la marche de Bretagne, quasiment. Par son mariage, d'une part, et par ses possessions paternelles et...
Catherine de Thouars était une très grande propriétaire terrienne.
Absolument.
C'est important. Donc,
Absolument.
Il avait fait un mariage d'argent, si l'on peut dire. Enfin, une alliance nobiliaire.
Il s'est marié très jeune. Il s'est marié très jeune. D'abord, ça a été un mariage clandestin, au départ. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça sans tambour ni trompette, si j'ose dire. Et puis ensuite, ils l'ont légalisé. Mais c'est un. Donc, si vous voulez, au départ, rien n'est, comment dire, extraordinaire. Il a un destin. Et un mariage tout à fait normal par rapport à sa condition.
Tout à fait normal, il n'a quasiment pas d'enfant, il a une petite fille.
Oui, mais bon, il est aussi parti tout de suite.
Oui, c'est vrai.
À la guerre, parti tout de suite pour la reconquête.
Il vit dans une résidence différente de celle.
Oui,
elle à Pouzauges, lui à Tiffauges.
C'est après.
Oui, c'est plus tard. Oui.
C'est après. C'est le retour. C'est-à-dire que la chronologie, il faut l'affiner considérablement.
Voilà. Mais oui.
Et quand on parle, alors là, on peut voir aussi ce virage. Bon, la Trémouille est écartée, là aussi. Donc, il perd ses appuis à la cour et il se retire. Ça, c'est quand même très intéressant. Devenir, si vous voulez, chevalier terrien en quelque sorte, capitaine désaffecté, capitaine à la retraite ou presque à l'âge qu'il avait, c'est quand même un problème sur lequel il faut quand même réfléchir.
Surtout
qu'est-ce qu'a été le blocage.
Lorsqu'on a cru, c'est même pas cru, lorsqu'on a participé à la plus belle épopée de l'histoire
absolument.
De France quand même.
Absolument.
Donc il a dû vivre dans une exaltation extraordinaire et puis d'un seul coup, plus rien.
Voilà, et c'est pour ça que je reviens à ces prédictions. Pour moi, c'est une des clés d'explication de Jeanne aussi, du lâchage de Charles VII et probablement de la remise en cause intérieure de Gilles de Rais. Elle est en partie abandonnée par Dieu, donc est-ce qu'il s'est trompé? Car entre la sainte et la sorcière,
eh oui.
La différence n'est pas si forte.
Bien sûr, surtout à l'époque, on se
voilà,
pose constamment
sûr.
Cette hyper...
Ah ben oui, non, mais je ne parle pas de notre époque.
J'ai,
là, je
insisté,
parle de la...
j'ai insisté sur ce manichéisme, si j'ose dire, oui. Sur cette espèce de dualité permanente entre oui. le bien, le
oui.
mal,
oui.
la lumière, les ténèbres,
oui.
le
absolument.
Corps, l'esprit.
Oui.
C'est-à-dire que vraiment, on est dans une époque très duale comme ça.
Tout à fait.
Le thomisme s'est développé dans les milieux très évolués, mais globalement et d'une façon oui. générale, la société reste marquée par Saint Augustin et par
absolument.
Cette idée d'une sorte d'impureté de la chair.
Oui, hein, c'est... oui et lui, il est, si vous voulez, et c'est surtout une société dans laquelle il y a une croyance très forte dans les prédictions.
Hein,
dans ce contact qu'on peut avoir avec
au-delà. Les prédictions qui ont une existence réelle.
Oui.
Nous, aujourd'hui,
oui.
nous voyons ça presque comme une fantaisie. À ah. l'époque, ça fait partie de la
mais
vie.
Mais non, hein, ils ont on se lève le matin, on a une prédiction dans sa poche.
Voilà,
enfin,
c'est ça,
j'exagère
exactement.
Un peu,
non, mais
à
c'est
peine.
Ça, oui.
À peine. Parce que, si vous voulez, on a d'ailleurs peur de mourir. Hein. Et surtout quand on a une vie aussi engagée, un corps aussi engagé que le sien.
Alors j'ai parlé de la richesse des propriétés de Gilles de Rais, de son extraordinaire bibliothèque
oui.
et de cette chorale d'enfants. C'est là que ça se gâte, si je puis dire.
Alors non, si vous voulez, il a fait construire une chapelle donc à Tiffauges, hein, et somptueuse. Il en reste presque rien, mais bon, somptueuse. Et ça... Comme vous l'avez d'ailleurs dit aussi, ça demande de l'entretien, ça demande de la richesse et ça demande effectivement de la musique. Alors il était très très musicien et ça c'est aussi très intéressant. Est-ce que c'est très original?
La musique était
oui.
toujours une musique sacrée à l'époque,
oui.
il y a très
oui.
peu de musique
toujours.
Profane. Hein.
Toujours, non.
Oui.
Il y a une musique profane
oui,
dans les
enfin,
danses,
que, oui,
bien
voilà,
sûr,
que tout
bien
à fait,
sûr, il y a des caroles hein, quand même.
Qui
hein.
est très populaire.
Oui,
disons,
oui, oui.
Voilà.
Ah non, dans la société aristocratique aussi, non, il y a aussi une musique profane dans la société aristocratique. Mais est-ce que c'est extraordinaire pour son temps? Pas vraiment. Si vous regardez Jean de Berry,
oui, bien sûr.
Au même moment, c'est la même chose. Ce goût du somptuaire, ce goût des bijoux, ce goût des livres, ce goût aussi de la chapelle,
oui.
la Sainte Chapelle, les Saintes Chapelles de Jean de Berry.
Après tout, quand le roi Édouard III veut montrer sa puissance devant Calais, que fait-il? Il fait venir sa chapelle. C'est-à-dire que c'est l'élément distinctif des très grands seigneurs d'Europe
tout
que d'avoir
fait.
Une chapelle. Hein. Ce qu'on
tout
appelle une chapelle, c'est un chœur, en fait. Hein.
Tout à fait.
Alors, pas seulement d'enfants, c'est
non.
un... Mais enfin,
non, non, mais il y a des chanoines,
il y a
des adultes qui sont
voilà.
là et qui s'occupent effectivement de la partie.
C'est un peu les
sacrée.
Petits chanteurs à la croix de
voilà.
bois, si je puis
voilà.
dire.
Voilà, si vous voulez, oui, si vous voulez. Alors, donc, voilà un personnage, si vous voulez, qui est quand même. Alors, est-ce que c'est hors du commun? Je réponds non, si on compare aux grands princes territoriaux de l'époque. Si on compare à de simples seigneurs, c'est déjà quand même un peu le haut du panier. Vous voyez?
Oui, tout à fait, même,
voilà.
bien sûr.
Hein donc, il a quand même des goûts de luxe. Il a des goûts de luxe. Et il est extrêmement cultivé. Il connaît le latin. Dans son procès, ça se voit.
Bien sûr.
Hein, parce que de temps en temps, il demande de traduire, mais
il
pas vraiment.
Il a des manuscrits,
oui,
beaucoup
oui,
de manuscrits.
Non,
donc,
absolument.
Il lit couramment le latin.
Il connaît le latin. Et il a la cité de Dieu, justement.
Oui,
dans de
Saint Augustin.
Dans ses manuscrits. Voilà. Donc c'est un homme, c'est assez fascinant quand même. Et c'est quand même une énigme par certains côtés,
alors,
parce que si je compare avec Du Guesclin, qui avait aussi un hôtel, qui était aussi, comme je l'ai dit précédemment, un homme cultivé, hein, contrairement à ce qu'on raconte, il y a quand même une différence et on est un cran au-dessus.
Alors, nous allons venir dans un instant à la situation financière de ce monsieur, parce qu'il va être placé d'une certaine manière sous tutelle, mais il a fait des dépenses somptuaires, il a beaucoup prêté à certains grands seigneurs, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques, ça va sans doute jouer un rôle, bien entendu. Et puis, n'oublions pas qu'il va s'acoquiner d'une certaine manière avec des personnes qui sont des gens de finance, qui sont des gens d'alchimie, donc les alchimistes vont jouer un grand rôle, et peut-être des criminels. Je dis peut-être parce que c'est là qu'est le grand mystère, et j'ai grand hâte de connaître votre point de vue sur la question, Claude Gauvin.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Gilles de Rais est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'historienne médiéviste, Claude Gauvin, professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à la Sorbonne.
Alors, le moment est venu de parler du cœur de notre affaire, c'est-à-dire du procès de Gilles de Rais. Avant cela, peut-être, revenons sur sa situation financière. Quand on le place sous tutelle, c'est qu'on estime qu'il n'est plus capable de gérer ses biens?
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est une procédure qui est destinée
procédure familiale,
aux prodigues.
Oui,
voilà, oui. Ce sont les prodigues dont on sait parfaitement qu'ils sont d'ailleurs très souvent assimilés à des fous. Hein ? Folie, prodigalité, ça va ensemble à l'époque. Et au Parlement de Paris, comme au Parlement de Bretagne d'ailleurs,
de grands tribunaux,
c'est la même chose,
on va dire,
il y a, c'est un chef d'accusation qui fait qu'on les met sous tutelle. Voilà. Alors, d'ailleurs, le roi lui-même, le roi Charles VII, a essayé de protéger justement les biens, mais il n'y est pas arrivé. Donc, cette mise sous tutelle, elle est liée à sa grande prodigalité. Et si vous voulez, là aussi, dans la vie, il y a une accélération que je vois, moi, à partir des dépositions en 1438. Je dirais que là, il y a une sorte de rupture, de césure, avec une accélération vers la folie, le dérapage.
La perte des repères.
Voilà. Et je pense que l'intervention, effectivement, de Francesco Prelati, alchimiste italien venu, qui est un homme probablement, j'allais dire, un homme de main, ou presque.
J'ai dit qu'il y avait dans le goût du maréchal de Rais pour l'alchimie, toujours cette même recherche de la pureté. Moi, j'en ai fait mon fil conducteur. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement la recherche de nouveaux moyens pour
de
faire
l'or.
De nouvelles dépenses?
De l'or.
Voilà, c'est
de
ça,
l'or.
Bien sûr.
De l'or.
En tout cas, ça, c'est ce qui intéresse Prelati et la bande.
Voilà, tout à fait. De l'or. Et puis, en même temps, aussi des poudres de préservation de la vie. C'est-à-dire qu'à partir de ces poudres, on les met dans des sachets. Et ces sachets, on les porte sur soi sous forme de brevets qui doivent vous garantir.
En fait, hein.
Voilà. Et alors ça, c'est très militaire.
Mm-hmm.
Les capitaines
ont
et
tous
les hommes d'armes
bien sûr, bien
ont
sûr.
Tous ça sur eux. Parce que ce qu'on redoute, c'est la mort, la malmort, c'est-à-dire la mort soudaine. La mort sans confession.
La mort violente qui n'a pas permis de se mettre en règle avec Dieu.
Voilà. Oui. Voilà. Donc on a là, c'est un mélange entre ces désirs d'obéir à Dieu, d'être religieux jusqu'au bout des ongles, jusqu'à la confession extrême, et puis des actes, effectivement, criminels qui lui sont reprochés dans le procès.
Alors, ces actes criminels, on y viendra dans le procès. Est-ce qu'on peut les affirmer? Est-ce qu'on peut les documents nous permettent de les corroborer? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il en est de tous ces crimes d'enfants?
Alors,
enfin, d'enfants et de jeunes gens, en fait.
Oui,
hein.
Oui. Garçons et filles.
Garçons et filles,
il y a quelques filles.
Oui.
Alors, bon, là, on touche au procès. Parce que sur Gilles de Rais, qu'est-ce qu'on a? On a des cartulaires qui disent quels sont les biens. On a deux procès, un procès ecclésiastique et un procès civil. Et puis, on a les chroniques. Chroniqueur comme Enguerrand de Mosrelet qui dit que quand il a été condamné et qu'il a été exécuté, tous les nobles de Bretagne se sont mis à pleurer. Mmh. Bon, voilà des choses qu'on ne peut pas tirer grand-chose des chroniqueurs. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose des procès?
Eh bien, c'est ça la grande question.
Ben voilà. Alors, on a donc deux procès, ce qui est tout à fait exceptionnel. On a un premier procès qui est celui de l'Église, de l'officialité de Nantes. De Malestroit, donc, évêque de Nantes, qui...
Et par ailleurs débiteur de Gilles de Rais.
Oui, tout à fait. qui est débiteur de Gilles de Rais, qui a été, qui a fait le procès selon une procédure tout à fait régulière. En ce sens qu'il y a d'abord eu une information, parce que la FAMA commençait à venir des bruits donc sur l'attitude, les enlèvements d'enfants, et qui s'est adjoint un vice-inquisiteur dans un procès d'hérésie. C'est normal. Depuis le concile de 1312 de Vienne, c'est comme ça que ça se passe en France. L'évêque fait appel à un dominicain en général, ce qui est le cas ici, c'est Jean Drouin, et qui est donc adjoint à lui pour mener l'enquête, qui est confiée d'ailleurs aussi à un promoteur. Alors, c'est
donc
ce tribunal
la procédure religieuse.
Parfaitement. Qui date de la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle. Chaque diocèse, chaque donc église cathédrale a au moins un tribunal d'officialité réservé aux clercs et au cas, justement, de la foi et de la sorcellerie. Normalement, de la sorcellerie aussi. Bon. Donc, c'est un procès de foi et d'hérésie. Parallèlement, Jean V,
donc le duc de Bretagne,
confie à un parlementaire, au directeur du Parlement,
au président du Parlement,
le soin de mener un procès civil. C'est donc un deuxième axe qui, lui, est orienté vers quoi ? Vers les meurtres.
Donc là, on est beaucoup plus dans la réalité de fait. Là. C'est plus une question d'hérésie. Là.
On n'est plus dans l'hérésie. L'Église ne peut pas juger du meurtre. Elle ne juge pas du sang.
Elle ne juge pas des faits, elle juge des armes.
Non, elle ne juge pas du sang.
Du sang, voilà.
Parce qu'elle ne peut pas condamner à mort.
Ça reste le domaine de
Elle ne peut condamner qu'à l'excommunication, à la prison perpétuelle et à des amendes.
Les crimes de sang relèvent d'un tribunal civil, par essence.
Alors, le sang relève du tribunal civil. Il y a deux chefs d'accusation essentiels. Il y a le problème des meurtres et il y a un deuxième problème qui est un problème de lèse-majesté vis-à-vis du duc de Bretagne, à savoir que à Saint-Étienne de Mermorte, et je pense que là c'est vraiment un événement capital, Gilles de Rais est entré dans l'église armé et il a retiré de l'église Jean Le Féron.
Il est entré à cheval et armé.
Il a retiré Jean Le Féron, qui était le châtelain d'un château qui avait été racheté par le duc de Bretagne. Et il lui a injurié, Ribaud, etc. Et il l'a maltraité et il a donc commis un crime de lèse-majesté, le châtelain étant un officier ducal. Si tant est que la lèse-majesté puisse être ducale. Mais bon,
C'est
un autre problème. Donc,
en tout cas, c'est un souverain.
Deux types de crimes. Lèse-majesté divine, parce que c'est un procès d'hérésie.
Ça, c'est devant le tribunal d'officialité.
Lèse-majesté
civile.
Civile, parce que c'est devant le juge civil.
Et évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est le troisième aspect. C'est l'aspect matériel des crimes d'enfants.
Alors là, bon, regardons un peu le procès. Il y a des dépositions et il est hors de question de nier.
Surtout qu'il y a beaucoup d'aveux.
Il y a beaucoup d'aveux et on ne peut pas avoir acheté tous les témoins. Ça, c'est pas possible. Simplement, il faut regarder comment se sont faits les aveux. On l'a extorqué quand même. Même si on dit que c'est en toute liberté et sans torture. Ça, vous savez, ça risque à prouver. Des aveux à Henriet, à Poitou, à d'autres très proches, qui ont décrit les scènes que vous avez décrites, c'est-à-dire les enfants pendus à des crochets, etc., dans des scènes de transe épouvantables. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que l'aveu extorqué sous la torture, c'est du délire. C'est toujours du délire.
Mais quand Gilles de Rais lui-même dit...
Et il reprend, mais c'est normal qu'il reprenne. C'est-à-dire que, dans le procès, ce sont eux qui parlent les premiers. Ils sont après cités parmi les témoins. Donc, ils se plient à eux. dans une confession avec la salle de torture quand même qui est à côté pour lui aussi et qu'il redoute. Ah, ça c'est redoutable, hein. Bon, le problème c'est que ses aveux sont extrêmement, comment dire, stéréotypés.
Oui. Dans leur formulation.
Dans leur formulation. Alors c'est normal. Parce que ils répondent, les témoins ont répondu à toutes les mêmes, aux mêmes questions. On n'a pas
et
la voix vive des témoins.
Les greffiers ont des,
on a jamais,
voilà, les greffiers ont des formules.
Voilà. Hein. On n'a jamais la voix vive des témoins. Jamais. Dans un procès. Mais en revanche, on a des contenus là qui sont, comment dire, un peu, tellement forts, tellement forcés, tellement délirants, qu'il faut se poser la question. Il faut se poser la question du lien obligé que ces aveux peuvent avoir avec le chef d'accusation. Léser la majesté, c'est effectivement, forcément, commettre des crimes contre nature. Autrement dit, la pédophilie, le meurtre d'enfants, l'enlèvement d'enfants, ça fait partie des chefs d'accusation qui sont liés à cette, comment dire, à ce crime qui les englobe tous, qui est la lèse-majesté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'enlèvement d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été exécutés. Parce qu'on n'a quand même pas retrouvé les ossements. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient été transportés de Tifauge à Machecou. Ça ne veut pas dire que tout ça n'a pas existé. Dans quelle proportion? Est-ce que ce sont des milliers, comme il le dit? Est-ce que ce sont des centaines? Est-ce que ce sont des dizaines? J'ai pas dit que ça excusait. Bien évidemment. C'est bien évidemment.
Je sens qu'on va faire trembler le standard.
Non, bien évidemment. Il n'est pas question d'innocenter, hein, Gilles de Rais. Mais de se poser des questions sur
la nature
du procès. Mmh. La nature du procès. Pour l'exécuter, pour arriver à la condamnation à mort d'un grand noble, il faut vraiment des charges énormes. Et là, on les a. Vous voyez ? Alors, est-ce que c'est pour lever les dettes ? Je ne suis pas sûre. Les dettes, c'est courant. Dans le monde aristocratique.
Est-ce que c'est pour se débarrasser de quelqu'un qui était devenu fou.
C'est possible. Qui avait commis des crimes, sûrement. Parce qu'il y a quand même des plaintes de voisins.
Lorsqu'on voit les réponses qu'il fait au procès, ce sont des réponses entre guillemets sensées. Oui. Certaines sont même assez remarquables d'une certaine façon. Ce qui explique peut-être d'ailleurs l'espèce d'émotion populaire autour de son exécution, qui est un retournement de la population.
La foule au moment des exécutions, c'est encore un autre sujet. Car elle peut être tout à fait, ça peut être un lynchage, la peine de mort, mais ça peut être aussi quelque chose qui est tellement extraordinaire et
de l'ordre de l'expiation,
voilà,
un peu.
Voyez, hein. Oui, exactement. Donc quelque part, la foule peut être transportée. On le voit par exemple dans les procès de Louis XI. Vous voyez quand il fait décapiter tel ou tel de ses grands, eh bien la foule pleure. Alors que elle était contre 5 minutes avant.
Merci infiniment Claude Gauvard d'avoir pris le soin de décortiquer avec nous les différents aspects, les tenants et les aboutissants d'un procès dont on a bien compris qu'il est à la fois un des plus emblématiques mais aussi un des plus mystérieux de la fin du Moyen-Âge. Merci beaucoup.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et cette question maintenant pour le retour aux origines, comme chaque jour, question de Suzanne via le site d'Europe1.fr. Et Suzanne vous demande, Franck Ferrand, quelle est l'origine du terme ch'ti ?
Alors, ce qu'on appelle le ch'ti, c'est une langue qu'on appelle d'ailleurs de façon plus scientifique le Picard. Mais quand on parle des ch'tis pour désigner les gens du Nord, alors ça c'est un terme qui date de la Première Guerre mondiale, un terme qui a été inventé par les poilus. Il est utilisé par les soldats afin de désigner donc tous les camarades qui viennent de la région du Nord, du Pas-de-Calais, de la Picardie. Ça vient des mots chéti, chémi, c'est toi, c'est moi. Chéti, donc, ben, ça a donné ch'ti, les ch'tis. Alors la langue, elle, ce picard, est une, c'est plus qu'un dialecte, hein, c'est une langue à part entière, avec ses propres règles, avec sa grammaire particulière. Cette langue fait bien sûr partie de toute la famille des langues d'Oïl, c'est-à-dire ces langues parlées autrefois dans le nord de la Gaule romaine, dans la partie nord du royaume de France, au Moyen-Âge. La dénomination picard est apparue assez tard, vers le XIIIe siècle. La langue ch'ti est encore répandue aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la Picardie, qui font désormais partie de la région qu'on a bizarrement appelée les Hauts-de-France, et en Belgique, dans la province de Hainaut. On le parle, ce ch'ti, je pense évidemment, on pense à Aline Renaud quand on évoque cette langue, cet accent, cette façon d'être et de parler. On pense au film, évidemment, de Danny Boone. On pense aussi à un certain nombre de nos collaborateurs à Europe 1, mais je ne dénoncerai personne à ce micro aujourd'hui. Ils se reconnaîtront, et en l'occurrence celui auquel je pense se reconnaîtra. Il existe depuis 1980 un journal trimestriel qui est entièrement rédigé en ch'ti. Ça s'intitule Schlancheron, ça veut dire le pissenlit en picard. Alors je vous cite un morceau choisi, enfin je vais essayer. Hein. « Echti qui voudra, y pourra », ça veut dire eh ben, « quand on veut, on peut ». Mais moi je voulais parler ch'ti et vous voyez que j'ai quand même du mal.